Session Deus Caritas Est, juillet 2012. La charité ne peut pas contredire la justice, par Patrick et Magali Monnier.
Alors, Patrick et Magali Monnier, nous sommes mariés depuis 16 ans. Patrick est militaire de carrière et moi je m'occupe de nos 4 enfants, âgés de 7 à 11 ans, que nous avons adoptés en Russie. Nous connaissons la famille missionnaire de Notre-Dame, surtout depuis 2003. Nous avons cheminé avec la communauté grâce aux récollections de foyers à Cannes et puis au Grand Fougeray. La famille missionnaire de Notre-Dame représente un soutien spirituel très important et nous permet de mieux comprendre l'importance du magistère. Nous sommes devenus foyer amis en 2006. Alors, le Père Bernard nous a demandé d'approfondir la partie de l'encyclique Deus Caritas Est, se rapportant à la justice et à la charité, et de répondre à la question de savoir si la charité peut contredire la justice. Alors, sans aller très loin, la situation en 2012 en France est paradoxale. Nous vivons dans une démocratie en paix depuis plus d'un demi-siècle. La France est considérée comme un pays riche où règne une certaine justice sociale. Et pourtant, 8 millions de personnes y vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire inférieur à 800 euros par mois. Et les dons aux associations caritatives n'ont jamais été aussi importants. Alors, avant de développer, il est utile de bien définir les termes « justice » et « charité ». Dans l'encyclique, Benoît XVI évoque les nombreuses encycliques sociales de ses prédécesseurs depuis la fin du XIXe siècle et évoque la justice sociale et politique. La justice est le but et donc aussi la mesure intrinsèque de toute politique. La doctrine sociale de l'Église nous dit que la justice consiste dans la constante et ferme volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui leur est dû. La justice sociale, exigence liée à la question sociale, qui se manifeste aujourd'hui sous une dimension mondiale, concerne les aspects sociaux, politiques et économiques, et surtout la dimension structurelle des problèmes et des solutions qui s'y rattachent. La justice apparaît comme particulièrement importante dans le contexte actuel où la valeur de la personne, de sa dignité et de ses droits est sérieusement menacée par la tendance diffuse de recourir exclusivement aux critères de l'utilité et de l'avoir. Alors, la charité. Après avoir défini l'amour dans la première partie de l'encyclique, Benoît XVI aborde la charité comme étant l'organisation de l'exercice de l'amour du prochain. Dans la doctrine sociale de l'Église, nous pouvons lire « La charité, souvent réduite au domaine des relations de proximité, doit être reconsidérée selon sa valeur authentique de critère suprême et universel de l'éthique sociale tout entière. » Alors, au regard de ces différentes définitions, nous pouvons donc nous demander si justice et charité peuvent s'opposer, si la charité peut entraver la justice, ou si encore la justice peut se passer de la charité. La réponse est bien évidemment non, comme nous le rappelle la doctrine sociale de l'Église. La charité présuppose et transcende la justice. Cette dernière doit trouver son complément dans la charité. Si la justice est de soi propre à arbitrer entre les hommes pour répartir entre eux de manière juste les biens matériels, l'amour, au contraire, est seulement lui, est capable de rendre l'homme à lui-même. Les rapports humains ne peuvent pas être uniquement réglés par la mesure de la justice.
» Alors, en nous appuyant sur la lecture de l'encyclique, mais aussi de la doctrine sociale de l'Église, nous allons développer cette réponse en trois parties. Alors, tout d'abord, nous allons faire une étude rapide des arguments qui opposent ou qui pourraient opposer justice et charité. Ensuite, nous verrons que la charité complète la justice en vue du bien commun. Et enfin, dans une dernière partie, nous verrons que la charité est indispensable car elle est l'expression de l'amour humain. Alors, tout d'abord, donc, l'étude des arguments qui opposent justice et charité. Alors, on pourrait effectivement penser que dans une société idéale, la justice aurait atteint un tel niveau de perfection que la charité serait totalement inutile. Bien évidemment, cette société n'existe pas sur Terre. Alors, on peut se demander pour quelles raisons alors opposer justice et charité. La première des raisons nous est donnée par Benoît XVI au début du paragraphe 26 dans l'encyclique. Depuis le XIXe siècle, on a soulevé une objection contre l'activité caritative de l'Église, objection qui a été développée ensuite avec insistance, notamment par la pensée marxiste. Les pauvres, dit-on, n'auraient pas besoin d'œuvres de charité, mais plutôt de justice. Les œuvres de charité, les aumônes, seraient en réalité pour les riches une manière de se soustraire à l'instauration de la justice et d'avoir leur conscience en paix, maintenant leur position et privant les pauvres de leurs droits. Alors ce qui est vrai est que certains systèmes fiscaux que nous connaissons en France peuvent laisser à penser qu'il existe effectivement une charité intéressée qui de surcroît donne bonne conscience. On peut penser à tous nos systèmes de déduction fiscale pour les dons aux œuvres. On peut aussi penser aux déductions qui sont liées, par exemple, aux quêtes prélevées dans certains diocèses, comme le diocèse de Fréjus-Toulon. Pourtant, même si certains chrétiens restent encore réticents à ces pratiques, nul ne peut nier tout l'intérêt qu'elles peuvent apporter à de nombreuses causes, ne serait-ce tout simplement que financièrement. Par exemple, donner à une association pro-vie entraîne une déduction fiscale, si bien que le donateur contraint en quelque sorte l'État à financer le combat pro-vie. Or, dans ce domaine, tout le monde sait que l'État ne répond pas aux critères de la justice, notamment par la promotion de l'avortement et son remboursement, qui est à la charge de tous les contribuables. Alors, la deuxième raison qui peut pousser certains à être réticents vis-à-vis de la charité, et que cette dernière peut être considérée parfois comme acquise ou même détournée. Certains États, par exemple, ne feront pas effort dans un domaine, sachant parfaitement que des associations caritatives le prennent en partie en compte. On peut penser à toute l'action de Médecins du Monde, par exemple, dans de nombreux pays. Alors, nous avons en famille passé 2 ans au Sénégal. Et effectivement, nous avons pu constater que nous avons des gouvernants au Sénégal qui sont très riches, et le contraste avec une partie de la population extrêmement pauvre est saisissante. Alors que certaines personnalités roulent en 4x4 flambant neuf à 50 000 euros et vivent dans des villas climatisées, les habitants de Pikine, qui est le quartier pauvre de Dakar, subissent des coupures de courant de plus de 12 heures d'affilée et se retrouvent avec 1 mètre d'eau dans leurs habitations lors des pluies annuelles du mois de septembre. Et cette situation perdure et se renouvelle chaque année, à chaque saison des pluies, sans aucune action ciblée de l'État.
Alors, c'est dans ce contexte d'un pays pauvre, où viennent des touristes occidentaux, qu'une certaine forme de charité peut être aussi détournée. Alors, toujours au Sénégal, il existe une confrérie musulmane très puissante, qui s'appelle les Mourides, qui étend son influence sur la population par une aide matérielle qui sert à recruter des nouveaux fidèles. Un des vecteurs de collecte d'argent est le jeune Sénégalais, âgé de 5 à 10 ans, que l'on appelle le Talibé. Ses enfants sont envoyés dans les rues pour mendier, loin de leur famille, d'où ils ont été retirés en échange d'une promesse de scolarisation. Nous les croisions dans les rues de Dakar, notamment aux sorties de magasins, et ils étaient toujours habillés avec des vêtements déchirés, pieds nus une boîte de conserve à la main pour récolter les pièces de monnaie. Tout pour faire pitié. Sachant que cet argent n'était pas destiné au bien des enfants et que de surcroît ils étaient maltraités, nous avions pris l'habitude de leur donner de la nourriture qu'ils pouvaient consommer immédiatement. C'était un moyen pour nous de poser un acte de charité sans entretenir une injustice. Enfin, la charité peut déranger. Dans certains pays où la justice est absente, dans des domaines importants comme la santé. En effet, il se peut que l'aide apportée à certaines personnes soit mal vue et entraîne une hostilité des autorités civiles ou religieuses. Pour illustrer ce propos, je souhaiterais témoigner de ma modeste expérience comme volontaire chez les missionnaires de la charité, les sœurs de Mère Teresa. Au début de notre mariage, nous n'avions pas encore d'enfants et Patrick partait régulièrement en opération extérieure pendant 4 mois. J'avais la volonté de me rendre utile et de rendre service. Alors je suis partie à Tanger, au Maroc, où les missionnaires de la charité accueillaient des filles mères rejetées par les hommes de leur famille. Ces jeunes filles risquaient la mort si elles étaient retrouvées. Avec d'autres volontaires, nous avions bénéficié d'une petite formation à Paris avant de partir, où l'on nous avait prévenu qu'à un moment ou un autre, nous pouvions nous poser la question de savoir ce que nous faisions là. Et dans ce cas, il nous suffisait de croiser le regard d'une personne dont nous nous occupions pour comprendre notre présence. En vivant ces moments-là avec les sœurs de Mère Teresa, je me suis rendu compte que leur présence comblait un vide, une absence de justice. Ce sentiment est indescriptible et j'avais la certitude que leurs actions étaient utiles. Nous avons donc vu que certains opposent justice et charité parce que la charité peut donner bonne conscience si elle n'est pas sincère, qu'elle peut être détournée ou encore qu'elle peut gêner certaines autorités.
Alors, plutôt que de considérer la justice et la charité comme concurrentes, il vaut mieux les considérer comme complémentaires. Et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. La charité complète la justice en vue du bien commun. Alors Benoît XVI nous invite à nous engager personnellement pour le bien commun dans le paragraphe 29. Le devoir immédiat d'agir pour un ordre juste dans la société est au contraire le propre des fidèles laïcs. En tant que citoyens de l'État, ils sont appelés à participer personnellement à la vie publique. Ils ne peuvent donc renoncer à l'action multiforme, économique, sociale, législative, administrative, culturelle, qui a pour but de promouvoir, organiquement et par les institutions, le bien commun. Une des missions des fidèles et donc de configurer de manière droite la vie sociale en respectant la légitime autonomie et en coopérant avec les autres citoyens selon les compétences de chacun et sous leurs propres responsabilités. Alors, il n'est pas toujours facile dans nos sociétés occidentales de prendre conscience de ce devoir individuel, tout simplement parce que le bien commun ne nous saute pas forcément aux yeux. Tellement de nombreuses facilités nous semblent normales ou relevées de l'acquis. Par exemple, qui pourrait imaginer aujourd'hui se passer de la sécurité sociale ? Alors, à titre de témoignage, la visite de l'ex-Yougoslavie à l'occasion d'une mission en Bosnie à la fin des années 90 a été marquante pour moi. En effet, parce que ce pays était un pays assez moderne et proche de nous culturellement, à peine 3 heures d'avion, et le fait d'y constater les dégâts dus à la guerre est très significatif. Pour beaucoup, les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale en Europe n'existent pas. C'est une autre génération qui a connu ça. Et voir ce pays avec des routes détruites, des absences de trottoirs, un manque d'eau, d'électricité chez certaines familles, des besoins en médecins, des besoins en matériel scolaire, sans parler des blessures psychologiques et des disparus, est très marquant. Et mon retour en France, c'est surtout mon retour en France en fait qui m'a marqué, parce que ça a été l'occasion d'une prise de conscience tellement le contraste était fort. Et la nécessité donc d'un ordre juste m'a paru évidente, ainsi que la nécessité d'une contribution fiscale en vue du bien commun. Alors comment peut-on donc contribuer au bien commun, chacun à son niveau ? Tout d'abord, Benoît XVI nous invite à nous former. On en a parlé tout à l'heure, car l'Église et son magistère sont d'une grande aide pour éclairer nos consciences, prendre du recul et surtout se détacher de nos préjugés idéologiques. Alors Benoît XVI écrit « La doctrine sociale de l'Église argumente à partir de la raison et du droit naturel, c'est-à-dire à partir de ce qui est conforme à la nature de tout être humain. Elle sait qu'il ne revient pas à l'Église de faire valoir elle-même politiquement cette doctrine. Elle veut servir la formation des consciences dans le domaine politique et contribuer à faire grandir la perception des véritables exigences de la justice. » Alors les formes que peuvent prendre cet engagement en vue du bien commun sont diverses, et certains ici sont bien mieux placés que nous pour en témoigner. Je pense à tous ceux qui ont des engagements caritatifs, des engagements au service du respect de la vie, que ce soit au sein d'associations pro-vie dans des aides concrètes aux mères en difficulté, dans le cadre de formation de jeunes, ou d'information en bioéthique vers les hommes politiques. Je pense aussi à toutes ces familles qui sont impliquées dans le fonctionnement d'écoles hors contrat. Mais malheureusement, le rythme de la vie ne permet pas toujours de consacrer suffisamment de temps à ces engagements et nous oblige même parfois à les laisser en sommeil. Alors cela ne nous empêche pas d'œuvrer au bien commun, notamment dans les petites choses de la vie, en essayant d'agir avec ce souci constant d'être juste et généreux. Alors je reviens encore sur notre expérience au Sénégal, où nous avons eu la joie et le privilège d'avoir 5 employés de maison à notre service. Pour un expatrié, il s'agit à la fois d'une coutume, avec des employés attachés à une habitation ou à une fonction, mais aussi à une nécessité, parce que la sécurité n'est pas la même et nécessite la présence d'un gardien, et les tâches ménagères sont parfois plus compliquées et plus longues. Alors nous avons donc géré cette petite entreprise familiale dans le respect de la justice, telle que la loi sénégalaise l'imposait, et en respectant à la lettre le règlement pour ne pas avoir d'ennui avec une administration tatillonne. Pour autant, il nous a semblé que cette action pouvait être adaptée et complétée avantageusement par une certaine forme de charité en raison de nos possibilités. Par exemple, des salaires un peu plus élevés, la pratique de petits cadeaux à l'occasion des fêtes religieuses notamment, puisque nous avions des employés catholiques. De la même manière, nous pouvions prêter ou avancer de l'argent ou prendre en compte un certain nombre de soins médicaux. Mais cette charité s'est élargie aussi par une intégration familiale, car les employés vivent toute la journée avec nous et avec les enfants. Et il n'est pas possible dans ce cas d'être indifférent à cette présence. Alors il s'agit donc d'actions toutes simples, mais qui ont permis et facilité des relations humaines très riches, qui ne se sont pas limitées aux rapports employé-employeur. Enfin, il est un domaine sur lequel nous voudrions nous arrêter. Pierre-Olivier en a un peu parlé ce matin, et où les chrétiens ont toute leur place et devraient être moins réticents à s'y impliquer. Il s'agit de la vie politique. Alors, il ne s'agit pas de la politique qui consiste à militer au sein d'un parti politique, mais il s'agit de l'implication dans le débat des idées pour éclairer les consciences en vue du bien commun. Elisabeth Montfort témoignait récemment à Vannes de l'influence que les AFC pouvaient avoir au sein de certains ministères, ne serait-ce qu'en annonçant le nombre de 25 000 familles adhérentes au niveau national. Ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, est pas assez, hein, pour être largement 10 fois plus. Et un responsable d'un cabinet ministériel était d'ailleurs surpris, car il le comparait, il était surpris en disant 25 000, effectivement, c'est beaucoup. Il comparait ce chiffre à une association revendiquant des droits pour les homosexuels qui avait été reçue par le cabinet de ce ministère et qui revendiquait 1500 adhérents. Vous voyez, avec 1500 adhérents, on peut avoir une ouverture de porte dans un ministère. Alors si les AFC demain étaient 250 000 ou 1 million d'adhérents, je pense qu'on pourrait faire changer certaines choses. Alors à titre d'exemple, cette année électorale a été l'occasion de nombreuses initiatives allant dans ce sens. Alors je pense aux travaux réalisés par Liberté Politique, on parle, par Catholiques en campagne, ou encore par les AFC au niveau national. Alors ces initiatives, peuvent et doivent être prises au niveau local, où les élus ou les candidats sont parfois beaucoup plus réceptifs et attentifs qu'on ne le pense. Alors à Vannes, nous avons monté pour l'occasion un atelier de politique familiale avec les AFC. Nous sommes réunis, nous avons décliné en fait le tract national des AFC et nous l'avons décliné en une série de questions. Alors sur les domaines du respect de la vie, de la famille, du mariage et de la bioéthique. Et nous avons envoyé à tous les candidats de nos circonscriptions, donc ça faisait 26 candidats pour deux circonscriptions, pour leur demander leur avis et expliquer pourquoi on leur posait cette question, hein, en revendiquant notre foi catholique, mais aussi notre intérêt pour le bien commun. Alors nous avons eu peu de réponses, mais nous sommes sûrs que tout le monde a reçu ce questionnaire. Mais cela doit nous inciter donc à poursuivre cet effort, parce que nous avons eu quelques articles dans Ouest France, nous avons eu des engagements nouveaux dans les AFC à cette occasion. Et parallèlement à cette action, nous avons un ami catholique qui est engagé en politique, mais pas au sein d'un parti. Il est indépendant et il s'est présenté aux législatives, justement. Sa femme était assez réticente parce que ça demande des efforts. Ça veut dire que sa photo se retrouve dans les rues. Ça coûte de l'argent. Ça lui coûte entre 2 et 4 000 euros puisqu'il faut imprimer les tracts et les affiches. Et sa femme lui a dit, bon, bah, d'accord, mais tu défends la vie. Alors. Donc il s'est lancé, effectivement, avec des thèmes très proches de la doctrine sociale de l'Église. Et cela peut peser même au-delà du résultat électoral. Il a fait moins de 2%, donc tout le monde peut balayer d'un revers de la main en disant, ça ne compte pas. Et en fait, si, puisqu'il est allé voir un des deux candidats arrivé au deuxième tour, et lui a dit, voilà, moi j'appelle mes petits électeurs catholiques à voter pour vous, à trois conditions. Entre les deux tours, vous vous engagez clairement contre le mariage homosexuel, vous vous engagez clairement contre l'adoption par les homosexuels et vous vous engagez clairement contre l'euthanasie. Alors le candidat a accepté les deux premiers points. Pas le troisième parce qu'il a dit « je vais perdre plus de voix que je vais en gagner ». Mais au moins, et c'est vrai, on a reçu ce tract et il y avait ces deux premiers engagements étaient écrits noir sur blanc. Dans sa profession de foi, pardon, donc qui a été distribuée avant le deuxième tour. Voilà, donc c'est pour montrer que même si ce candidat au deuxième tour n'est pas forcément convaincu, au moins l'engagement de ce catholique au premier tour voilà, permet de montrer qu'il y a des gens quand même qui sont sensibles à ce sujet et qui voteront en conséquence de l'engagement des candidats sur ce domaine. Alors ce genre d'engagement, qu'il soit modeste ou plus approfondi, contribue au débat politique en vue du bien commun. S'ils sont inspirés par l'enseignement de l'Église, alors elles s'inscrivent parfaitement dans ce que Benoît XVI décrit comme la relation entre l'engagement nécessaire pour la justice et le service de la charité. Benoît XVI écrit « La politique est plus qu'une simple technique pour la définition des ordonnancements publics. Son origine et sa finalité se trouve précisément dans la justice, et cela est de nature éthique. C'est là que se place la doctrine sociale catholique. Elle ne veut pas conférer à l'Église un pouvoir sur l'État, elle veut simplement contribuer à la purification de la raison et apporter sa contribution pour faire en sorte que ce qui est juste puisse être ici et maintenant reconnu et aussi mis en œuvre. Alors nous avons donc vu dans cette deuxième partie que la charité complétait la justice et que chaque laïc doit s'engager, chacun à sa manière et en fonction de ses possibilités et de son temps disponible, en vue de la recherche du bien commun.
Alors dans cette troisième partie, nous allons voir que la charité est indispensable car elle est l'expression de l'amour humain. Au-delà de la contribution concrète et matérielle de chaque chrétien, Benoît XVI nous explique que la charité transcende la justice par le simple et magnifique besoin d'amour. Je le cite, « L'Église ne peut jamais se dispenser de l'exercice de la charité en tant qu'activité organisée des croyants, et d'autre part, il n'y aura jamais une situation dans laquelle on n'aura pas besoin de la charité de chaque chrétien, car l'homme, au-delà de la justice, a et aura toujours besoin de l'amour. » Le but est de tendre vers une vie en société basée sur l'amitié civile. Je vous lis le passage de la doctrine sociale de l'Église qui développe cette théorie. Cette vie en société acquiert toute sa signification si elle est basée sur l'amitié civile et sur la fraternité. La vie en société devient d'autant plus humaine qu'elle est caractérisée par l'effort pour parvenir à une conscience plus mûre de l'idéal vers lequel elle doit tendre, qui est la civilisation de l'amour. Le précepte évangélique de la charité éclaire les chrétiens sur la signification la plus profonde de la communauté politique.
Alors Gaudium et Spes nous dit que rien n'est plus important que de développer le sens intérieur de la justice, de la bonté et le dévouement au bien commun. Alors à ce titre, je souhaiterais témoigner de ma propre expérience de vie sociale et professionnelle au sein de l'institution militaire. Alors ce témoignage est propre à mon expérience, qui peut ne pas être partagée par d'autres militaires, je sais qu'il y en a quelques-uns dans la salle, et qui se veut détaché, bien évidemment, de tout prosélytisme. Alors à l'heure où l'actualité met en évidence des rapports sociaux tendus et de plus en plus conflictuels, il m'a paru intéressant de montrer qu'il existe encore des lieux de vie et de travail où les rapports humains sont riches et respectueux de la personne humaine. L'institution militaire n'est certes pas parfaite, mais je peux témoigner qu'il y règne un esprit fraternel et respectueux de la personne humaine, très éloigné des clichés qui peuvent circuler. La discipline et la force de la hiérarchie n'écrasent pas les intérêts individuels, car ce sont les chefs qui en sont responsables statutairement. À titre d'exemple, la promotion interne est très importante et le principe de subsidiarité y est largement développé. Les liens de confiance y sont très forts, sans doute parce que chacun peut se retrouver responsable de la vie de l'autre. Il existe d'ailleurs une expression chez nous pour caractériser nos rapports. Nous parlons d'obéir d'amitié. Cela montre à quel point les relations humaines peuvent être apaisé. En Afghanistan, il a été constaté, mais cela s'est avéré vrai aussi pour d'autres conflits plus anciens, que les troupes engagées sur le terrain dans des situations de combat, et quel que soit le grade, obéissaient et agissaient non pas pour des raisons ou des motivations stratégiques, mais en raison des liens fraternels qui s'étaient créés, ou parce qu'il fallait aller secourir un camarade blessé. Un de mes amis, qui n'avait pas la foi, est mort en allant spontanément se porter au secours de son infirmier, qui avait été touché mortellement. Son sacrifice fut vain d'un point de vue humain, mais révélateur, je crois, d'un cœur profondément bon. Cet exemple est sans doute l'illustration la plus extrême de cette expérience d'amitié civile que l'on peut rencontrer au sein des armées. Alors nous souhaiterions terminer cette partie par la lecture de quelques paragraphes de la doctrine sociale de l'Église sur la civilisation de l'amour, pour montrer à quel point la charité est reine et maîtresse de toutes les vertus et intimement liée à la justice. Il s'agit d'ailleurs des derniers paragraphes de la doctrine sociale de l'Église. La finalité immédiate de la doctrine sociale est de proposer les principes et les valeurs qui peuvent soutenir une société digne de l'homme. Ce principe est illuminé par la primauté de la charité, qui est le signe distinctif des disciples du Christ. Le comportement de la personne est pleinement humain quand il naît de l'amour, manifeste l'amour et est ordonné à l'amour. Cette vérité est également valable dans le domaine social. Il faut que les chrétiens en soient des témoins profondément convaincus et sachent montrer par leur vie que l'amour est la seule force qui peut conduire à la perfection personnelle et sociale et orienter l'histoire vers le bien. L'amour doit être présent dans tous les rapports sociaux et les imprégner. Seule la charité peut changer complètement l'homme. La charité représente le plus grand commandement social. Elle respecte autrui et ses droits. Elle exige la pratique de la justice et seule nous en rend capables. De même, la charité ne peut se réduire à la seule dimension terrestre des relations humaines et des rapports sociaux, car toute son efficacité découle de la référence à Dieu. Alors nous souhaitons également terminer ce témoignage par l'exemple d'amis avec lesquels nous avons passé 2 ans au Sénégal et qui nous a beaucoup marqués. Alors ce témoignage rejoint d'ailleurs celui de François et Sylvaine d'hier après-midi. Ces amis avaient consacré leur journée du 25 décembre à parcourir les rues de Dakar en voiture avec leur petite fille et à distribuer un repas et une boisson chaude à tous les pauvres de Dakar, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Alors cet exemple d'amour donné gratuitement nous a beaucoup touchés et rejoint ce qu'a écrit Benoît XVI dans cette encyclique. L'amour, caritas, sera toujours nécessaire, même dans la société la plus juste. Il n'y a aucun ordre juste de l'État qui puisse rendre superflu le service de l'amour. Il y aura toujours de la souffrance qui réclame consolation et aide. Il y aura toujours de la solitude. De même, il y aura toujours des situations de nécessité matérielle pour lesquelles une aide est indispensable dans le sens d'un amour concret pour le prochain. Cet amour n'offre pas uniquement aux hommes une aide matérielle, mais également réconfort et soin de l'âme, aide souvent plus nécessaire que le soutien matériel.
Alors, en conclusion, après autant de citations du magistère, il est difficile de conclure par nos propres mots. Le magistère nous explique que la charité ne contredit jamais la justice, qu'elle la complète, puisque cette dernière sera toujours imparfaite, et que la charité est indispensable, car elle est l'expression de l'amour humain. Nous nous limiterons donc juste à rappeler l'importance de la prière et de l'invocation de l'Esprit-Saint pour mieux inspirer nos actions et orienter notre vie vers la charité, au service de la justice, dans tous les domaines, qu'ils soient familiaux, sociaux ou professionnels.
Retrouvez l'intégralité de la session, texte, audio, vidéo sur le site http://session.fmnd.org.